Radio Okapi.
Journal présenté par Patience Ngaloula.
D'abord les titres de ce journal. La MONUSCO ferme officiellement son bureau au sud Kivu ce mardi. La chef de la mission onusienne Bintou Keïta ainsi qu'une délégation des autorités congolaises sont attendus à cet effet à Bukavu cet avant-midi. C'est dans le cadre du désengagement de la MONUSCO de cette province déclenché depuis janvier 2024. Deuxième jour de l'examen d'État édition 2024, plus de 900 000 finalistes du secondaire prennent part à ces épreuves nationales sur l'ensemble du pays. Le coup d'envoi a été lancé hier par la première ministre Judith Suminwa ici à Kinshasa. L'invité de ce matin est Chirac Joachim Siriak, chef de division décentralisation et réforme institutionnelle au Nord Kivu. Il parle du processus de décentralisation et du fonctionnement des organes de contrôle à la base, notamment les conseils communaux qui viennent d'être mis en place dans toutes les villes de la RDC. Bonjour. La MONUSCO procède aujourd'hui à la fermeture officielle de sa présence dans le sud Kivu. Bintou Keïta, la chef de la mission onusienne, ainsi qu'une délégation des autorités congolaises sont attendues à cet effet à Bukavu cet avant-midi. La cérémonie de fermeture est prévue à l'aéroport de Kavumu dans le territoire de Kabare. La fermeture officielle du bureau de la MONUSCO sud Kivu fait suite au processus du désengagement de la mission de cette province déclenchée depuis janvier 2024. Rachel Kiesembangu.
Cette cérémonie marque la fermeture de tous les bureaux de la MONUSCO dans la province du Sud Kivu. Depuis janvier 2024, le processus de retrait a été déclenché à la suite de la décision du Conseil de sécurité de l'ONU en décembre dernier, après des discussions avec le gouvernement congolais. Depuis, plusieurs bases de la MONUSCO ont fermé, parmi lesquelles celles de Kamanyola, Bunyakiri, Amsar, Baraka, Kavumu. Déjà le 30 avril, toutes les activités dans le cadre du mandat de la MONUSCO avaient cessé. La responsabilité de la protection des civils relevant désormais des autorités congolaises. Après plus de 20 ans depuis leur premier déploiement, les soldats onusiens ont définitivement quitté le Sud Kivu en même temps que la MONUSCO faisait des donations de différents types de ses matériels et équipements aux autorités congolaises. La cérémonie de ce mardi 25 juin parachève le processus de désengagement de la MONUSCO dans la province du Sud Kivu. Nous y reviendrons avec plus de détails. Bukavu, Rachel Kiesé, Radio Okapi.
À Nitouri, l'auditorat supérieur près la cour militaire ouvre une information judiciaire à l'égard des officiers supérieurs des FARDC en opération contre les groupes armés dans cette province. Selon des sources judiciaires, ces militaires sont accusés des détournements et ventes des nouvelles tenues des FARDC aux éléments du groupe armé Zaïre. Les porte-parole de l'armée à Nitouri indiquent que cette action de la justice vise à redynamiser la discipline au sein des forces armées. Au Nord Kivu, l'accès aux soins médicaux pour les personnes déplacées des guerres dans les zones de refuge reste un véritable casse-tête, en particulier pour les femmes enceintes. Ce sont notamment les femmes déplacées qui vivent dans les sites en territoire des Niragongo, par exemple. Leurs sites sont éloignés du centre de santé de Kanyaruchinya, où est organisée la prise en charge gratuite des déplacés. C'est ce que constate l'ONG locale Action pour la protection civile et le développement APROCIDE, basée à Kibati. Cette structure demande aux autorités de trouver une solution rapide à ces problèmes qui affectent des milliers de femmes enceintes et populations déplacées. Sifa Maguru.
Ces femmes enceintes sont obligées parfois de parcourir de longues distances à pied et parfois contraintes d'aller passer la nuit aux alentours de l'hôpital pour rentrer le lendemain juste pour une consultation prénatale. Des contraintes qui ne facilitent pas la tâche à de nombreuses femmes déplacées qui font déjà face à plusieurs difficultés et conditions de vie difficiles. Du coup, elles ne suivent pas régulièrement les soins prénataux, ce qui les expose à plusieurs risques, notamment des fausses couches, des décès maternels et autres. Explication de Innocent Tuisabe, directeur exécutif de cette organisation.
Certaines femmes enceintes sont mortes par manque de soins médicaux. Le problème est qu'il n'y a pas de centre de santé suffisant pour prendre en charge tous les déplacés. C'est par exemple le centre de santé qui se trouve à Kanyaruchinya qui doit accueillir nombreux déplacés. Certains sont à Rusayo, d'autres à Mouja et ailleurs pour le seul centre. Cela constitue un grand défi. fille qui mérite de trouver solution d'urgence car elle occasionne plusieurs décès.
Ces cas de décès dus au manque de soins médicaux ne concernent pas seulement les femmes enceintes, mais plusieurs déplacés, notamment les enfants et les personnes de troisième âge qui meurent dans les abris faute de soins, ajoute-t-il. Goma Sifamagoro, Radio Okapi.
Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, instruit les ministres de pêche et élevage de livrer des intrants aux pêcheurs de Kinshasa et de Kisangani dans la province de la Tshopo dès la semaine prochaine. C'était lors de sa visite hier lundi du débarcadère intégré de Kinkolé dans la commune de Lancélé, dont les travaux sont à l'arrêt depuis des mois à la suite de la montée des eaux du fleuve. Cette visite intervient en marge de la 57e journée nationale du poisson. D'après Jean-Pierre Tshimanga, ministre des pêches et élevage, le président Tshisekedi est allé s'enquérir de l'évolution des travaux de ses ports de pêche en vue de son inauguration dans les prochains jours. Le ministre Tshimanga souligne que malgré l'arrêt des travaux, Félix Tshisekedi s'est dit tout de même satisfait du niveau d'exécution des travaux déjà atteints. En effet, c'est depuis le 24 juin 1967 que la RDC célèbre la Journée nationale du poisson. La coutume est encore respectée cette année, ponctuée par la visite du président Félix Tshisekedi aux pêcheurs de Kinshasa réunis à Kinkolé dans la commune de Lancélé. Le président n'a rien dit à la population qui l'attendait depuis la matinée. Pour quelques pêcheurs, l'organisation n'a pas été à la hauteur de l'événement. Daniel Tambinzoni était sur place à Kinkolé, suivait son reportage.
C'est autour de 15h30 que Félix Tshisekedi est arrivé au débarcadère de Kinkolé. Il salue la foule, se dirige vers un groupe de pêcheurs avec qui il discute très rapidement. Au bout de près de 10 minutes, sa visite est terminée sans adresse à la population qui l'attendait depuis plusieurs heures. Pour quelques pêcheurs, l'édition 2024 est un échec. Nous avons toujours célébré le 24 juin, mais en tout cas pour cette année, c'est un échec. Le président de la République est venu, on ne l'a même pas entendu. Même un sachet d'eau, même une bouteille de sucré. En tout cas, la fête n'était pas au rendez-vous. Le président du Centre des pêcheurs de Kinkolé reconnaît les failles de l'organisation de l'édition 2024 de la Journée du poisson. Venance Solo trouve des explications à cela.
Le 24 juin, il y a un fonds qui est libéré par le gouvernement pour cette journée. Malheureusement pour cette édition, comme le gouvernement vient de sortir récemment et l'investiture récemment, donc c'est ça la difficulté.
Il n'existe pas de statistiques de la quantité de poissons pêchés dans les différents cours d'eau de la RDC. Les différentes organisations qui encadrent les pêcheurs de Kinshasa demandent au gouvernement de remettre en service le bateau qui parcourait pendant la Deuxième République le fleuve Congo pour collecter les données de la pêche.
Environ 962 000 finalistes du secondaire prennent part à la session ordinaire de l'examen d'État édition 2024. Le coup d'envoi a été lancé hier par la première ministre Judith Suminwa. C'était au lycée Monseigneur Chaoumba à Kinshasa. Elle a à cet effet salué les efforts du gouvernement et de tous les personnels de l'éducation pour l'organisation de cette session. Elle a également encouragé les élèves à travailler pour réussir. On écoute la première ministre au micro d'Étienne Lissoumbou.
Le plus important, c'est de souligner tout l'effort qui a été mis en place au niveau du gouvernement pour que ces examens puissent avoir lieu à Kinshasa où nous sommes, mais aussi à l'intérieur du pays et particulièrement dans les zones où il y a des conflits comme au Nord Kivu où tout a été organisé pour que les enfants puissent passer leurs examens en toute sérénité. Et il faut féliciter tout le personnel de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté qui participe à ce processus de session parce que ce n'est pas évident, particulièrement pour ceux qui sont en province et dans des endroits reculés, de pouvoir tenir à organiser cela calmement, en toute sérénité. Et donc moi, je souhaite bonne chance à tous nos enfants, les jeunes filles et les jeunes garçons qui vont pouvoir tous, j'espère, réussir à cette session d'examen d'État 2024.
Au Nord Kivu, les élèves finalistes des centres de Bwiremana et 1 et 2 dans les groupements de Mufunishanga en chefferie des Barundi, territoire des Masisi, se disent satisfaits et remercient le gouvernement pour le premier jour des passations de cette épreuve. Ils affirment qu'en dépit de la situation sécuritaire instable que traverse le territoire des Masisi à la suite de la rébellion du M23 soutenue par les Rwandais, tout s'est bien passé le premier jour de l'examen. En Ituri, presque tous les centres de passation des épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État ont fonctionné malgré la situation sécuritaire encore précaire dans plusieurs entités des territoires de Djougou, Irumou et Mambasa. Constat fait hier lundi par les autorités scolaires au cours du lancement officiel de ces épreuves à Bounia. Selon elles, des mesures de sécurité ont été renforcées dans certains milieux pour garantir l'effectivité de ces épreuves. Dans la ville de Beni, la police met en garde tous ceux qui tenteront de troubler la quiétude des élèves finalistes pendant et après la passation des épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État. Selon son chargé des communications, des dispositions sont prises pour protéger les élèves. Ceux qui vont tenter de déstabiliser ces élèves seront poursuivis par la justice, déclare Nason Mourara. Il est au micro de Marc Marofimbo.
Ils doivent d'abord avoir l'esprit de responsabilité. Ils doivent savoir que l'éducation n'est pas toujours troublée. Et donc, quand les gens sont en train de passer leurs examens, ils doivent se sentir aussi à l'aise et en sécurité. C'est pourquoi nous, la police, nous avons des dispositifs que nous avons placés pour sécuriser ces épreuves-là. Tout celui qui viendra pour troubler l'ordre public sera poursuivi. Troubler ces finalistes-là, ils seront toujours poursuivis aussi pour troubler l'ordre public. S'ils sont en train de se préparer pour troubler, ils se préparent aussi à s'affronter à la police nationale congolaise. Nous devons sécuriser ces élèves pour qu'ils finissent les examens à toute quiétude.
Au Congo central, l'inspectrice principale provinciale s'inquiète de la faible participation aux filières de développement dans une province à vocation agricole. Véronique Atanjo invite les parents et les enseignants à motiver les enfants à s'intéresser à ces filières pour lutter contre la faim et la malnutrition au Congo central. Le point avec Nana Plurich Mambou.
D'après l'inspectrice principale provinciale Véronique Atanjo, seuls 706 candidats, dont 241 filles, affrontent l'examen d'État dans les options de l'enseignement technique telles que les vétérinaires, l'agriculture générale, l'industrie agricole et la nutrition. Elle fait remarquer que le Congo central, province à vocation agricole, dispose de 2 50 000 hectares de terres arables et des structures d'encadrement des agriculteurs à l'instar de l'INERA. La province, ajoute-t-elle, a un besoin pressant des techniciens agricoles devant travailler suivant les normes pour son développement. Elle sensibilise les parents et les enseignants qu'elle invite à motiver les élèves dans les choix des branches.
Les gens pensent que pour qu'on se dise intellectuel, il faut être au bureau. Et on a léguer l'enseignement technique au second plan. Les parents eux-mêmes n'ont pas encore compris que l'enseignement technique est très important et que c'est bénéfique pour les enfants. Alors nous pensons qu'il faut aller avec la sensibilisation auprès des parents qui des fois détournent les enfants. Et cette sensibilisation, nous devons la commencer à partir du primaire.
Rappelons que 52 914 finalistes du secondaire, dont 23 705 filles, réparties dans 158 centres, participent à ces épreuves. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Autre nouvelle, les travaux de construction de la grande roue d'attraction de Kinshasa se poursuivent. Située à la gare centrale à la Gombe, cette manivelle destinée à divertir les Kinois offre une vue large sur la ville. Plusieurs personnes s'interrogent cependant sur sa présence dans l'un des endroits les plus fréquentés de la capitale. D'après des sources du gouvernorat, sa construction est financée par la ville, mais construite par une entreprise chinoise. Miradi Fouengi et Arcel Kajourou se sont rendus sur place. Suivez leur reportage.
Située à la gare centrale et suspendue à environ 60 mètres de haut, cette roue compte une trentaine de cabines. D'après des sources de l'hôtel des villes, elles sont climatisées et peuvent prendre jusqu'à 4 personnes. Cette attraction est devenue le sujet de conversation de nombreuses personnes qui passent par la gare centrale. Certains en sont ravis, c'est le cas des mamans Nicole.
Je suis contente, vu que cela tombe à la fin de l'année. Les enfants peuvent se divertir au lieu de rester à la maison. Nous voyons cela seulement à l'étranger, pas en RDC.
D'autres trouvent cette construction moins importante. Ils estiment que son emplacement n'est pas approprié. C'est le cas de Jean-Bi et Thérèse.
Pour ma part, je trouve que l'argent utilisé pour construire cette manivelle, il devrait en faire autre chose.
C'est une bonne idée, mais cela devait se situer à la Fekine, parce que la gare centrale est au milieu de la route. En cas de coupure d'électricité, comment cela va-t-il se passer?
Lors d'une visite de Lyon en février, Gentiny Ngobila, alors gouverneur de la ville, expliquait l'importance de cette roue et ce qu'elle apporte dans la ville.
Il s'agit d'une attraction qui va permettre, dans les jours qui viennent, aux gens qui vont pouvoir l'utiliser d'avoir des sensations assez fortes et aussi de pouvoir avoir une vue panoramique sur la ville.
Le gouvernorat de Kinshasa rassure quant à la sécurité des lieux. La même source renseigne qu'il ne s'agit pas seulement de la roue, d'autres divertissements sont également prévus au même endroit.
Actualité internationale.
La Cour pénale internationale CPI s'apprête à prononcer ce 26 juin 2024 son verdict contre Abdulaziz Al-Hassan, l'ex-patron de la police islamique de Tombouctou lors de l'occupation du Nord Mali par les groupes djihadistes, répond des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Les juges diront notamment quelle était sa place dans la hiérarchie de l'occupation. Au Kenya, le président William Ruto a tenu lundi 24 juin une courte cérémonie pour le départ d'un premier bataillon en Haïti qui a quitté Nairobi pour Port-au-Prince peu après. Depuis octobre, les Kenyans disposent du feu vert des Nations Unies pour mener une mission multinationale dans l'île caribéenne afin de lutter contre les gangs armés qui paralysent le pays.
L'invité.
Parlons du processus de décentralisation. Que peut-on retenir du fonctionnement des organes de contrôle à la base, notamment les conseils communaux qui viennent d'être mis en place dans toutes les villes de la RDC? Quelles sont les attributions des conseillers communaux et qu'est-ce que la population peut attendre d'eux? Pour en parler, nous recevons comme invité dans ce journal le chef de division décentralisation et réforme institutionnelle au Nord Kivu, Chirac Joachim Siriaké, s'entretient avec Sifa Maguru.
Bonjour messieurs.
Bonjour madame.
Pouvez-vous d'abord nous expliquer c'est quoi cette notion des conseillers communaux? C'est vrai que c'est prévu par la Constitution, mais beaucoup de gens ne maîtrisent pas bien c'est quoi cette nouvelle notion.
Merci bien pour la question. Nous avons une réforme au pays qui a été acceptée, votée, validée au référendum de 2005 et qui a permis au chef de l'État de promulguer la Constitution le 18 février 2006. Cette grande réforme s'appelle la décentralisation, qui veut dire qu'il y a certaines compétences qui étaient jadis détenues par le pouvoir central, qui ont été transférées aux provinces et aux entités territoriales décentralisées. Ces provinces et ces entités territoriales décentralisées, qui sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie, ont changé de statut. C'est ici que vous voyez donc au niveau provincial, désormais, il y a des élections avec les gouverneurs et le gouvernement provincial. Il y a aussi une assemblée provinciale. Et au niveau local, donc avec le parachèvement de ce processus de décentralisation, on doit avoir un gouvernement local qui est donc le collège exécutif au niveau des entités territoriales décentralisées et les conseils. Et au niveau des communes, c'est le conseil de la commune qui est l'équivalent du Parlement au niveau local.
Justement, quels sont, si nous pouvons les connaître aussi, leurs attributions et comment ça va fonctionner?
Donc, comme vous le savez très bien, c'est un organe législatif au niveau local, un organe délibérant. Il y a les mêmes missions que les députés nationaux comme les députés provinciaux. Les deux grandes missions, donc, celui de voter les lois, donc légiférer dans les compétences qui sont les leurs, et aussi contrôler l'exécutif. Donc, c'est quand même une décision de proximité qui représente la population dans laquelle elle vit, et eux-mêmes, les conseillers municipaux vivent avec cette population-là. Donc il y a les besoins sociaux de base, donc les services de base qui sont contenus en fait dans leurs compétences bien clarifiées dans la loi portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur fonctionnement avec l'État et la province. Donc à terme de services de base à offrir, ils seront dans la proximité avec la population pour contrôler l'exécutif local afin de l'amener à poser les actes dans le cadre d'être efficace dans la résolution des problèmes qui se passent avec équité au niveau local.
Et quel sera leur rapport avec l'Assemblée provinciale et d'autres institutions, la province?
Vous savez, le principe, c'est la libre administration et l'autonomie complète de ces entités territoriales décentralisées. La personnalité juridique reconnue aux provinces et aux entités territoriales décentralisées veut que ces entités puissent librement exercer leur mission. Mais comme nous sommes dans un contexte d'un État unitaire, le gouverneur de province aura toujours un regard à travers la tutelle qui est pratiquement un mécanisme de contrôle et conformité de leurs actes aux lois de la République, sans interférer à terme d'injonction ou en empêcher la mise en œuvre de leurs compétences. Ces élus locaux n'ont apprécié aucun rapport avec l'Assemblée provinciale parce que chacun intervient dans le domaine de ses compétences. Néanmoins, dans le cadre de la collaboration, il y aura toujours des consultations à terme d'échanges pour poser des actes de manière efficace au nom et pour le compte des populations pour lesquelles ils ont été élus.
Et comment ils vont transmettre les préoccupations de la population au niveau supérieur?
Chaque entité territoriale décentralisée avec son autonomie de gestion est appelée donc à élaborer une vision de développement à travers un outil de référence qu'on appelle plan local de développement. Et ce plan local de développement doit s'élaborer de manière participative où les populations, les différentes couches de population doivent être consultées pour une définition participative de priorité de développement dans leurs entités. Et c'est là qui sera contenu dans la politique générale du gouvernement local. Et sur base des priorités qui ont été définies par la population, ces élus locaux seront en mesure de contrôler leur mise en œuvre par l'exécutif local afin de se rendre compte que tous les budgets qui ont été élaborés puissent prendre à charge toutes les priorités et les projets de développement et d'investissement proposés ou posés par la population dans leur juridiction.
Quant à leur budget, ils dépendent de quel budget ils seront payés comment et leur fonctionnement sera financé comment?
Ils doivent suffisamment mobiliser de ressources parce qu'ils relèvent de l'administration locale et c'est de là qu'ils doivent avoir tout ce qui doit rentrer dans leurs émoluments parce qu'ils ont un budget qui doit prévoir leur rémunération et d'autres avantages liés à leur fonction.
Merci beaucoup, monsieur le chef de division.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'est la fin de cette édition d'information sur Radio Kapi, mise en onde par Billy Landry Betou, supervisée et coordonnée par Pele Kipela Mondo. À la présentation, Patience Ngalula Mbombo. À vous tous, merci d'avoir été des nôtres.